La revue de presse internationale, Camille Magnard. Bonjour Camille.
Bonjour.
Hier, s'est achevé à New York le procès fleuve du narcotrafiquant mexicain El Chapo.
Joaquin Guzmán Loera, de son vrai nom, a été reconnu coupable des 10 chefs d'accusation qui lui étaient reprochés. Voilà donc le verdict dans ce procès qui aura duré 3 mois et que la BBC, en espagnol, qualifie de colossal. Alors bien sûr, les avocats de l'ex-chef du cartel de Sinaloa vont faire appel, ils le disent ce matin au journal mexicain Proceso, mais pour le Washington Post, la chose semble entendue. El Chapo, à 61 ans, va être condamné à la prison à perpétuité. Il va finir sa vie dans une cellule conçue pour que toute tentative de suicide ou d'évasion soit vouée à l'échec. Il faut dire que la légende El Chapo doit beaucoup à ses évasions spectaculaires de prison mexicaine. La dernière s'est faite sur une moto à travers un tunnel creusé par des complices jusque dans sa cellule. Et puisque l'on parle de légende, c'est peu dire avec le Washington Post que le procès El Chapo a passionné la presse mexicaine. Les récits de victimes, concurrents, journalistes ou enquêteurs abattus pour avoir mis leur nez dans les affaires du cartel, les histoires de violence, de torture, de viol et d'exactions en tout genre, tout ce grand déballage de preuves qu'a amené le procès a jeté un éclairage cru sur le fonctionnement du narcotrafic et a rempli pendant 3 mois les journaux du Mexique.
Car El Chapo est devenu, qu'on le veuille ou non, un symbole national.
Oui, le symbole cruel et douloureux de ces milliers de Mexicains qui ont souffert entre les mains du crime organisé. En cela, le procès de Brooklyn a choqué le Mexique, résume le Washington Post. Mais à Mexico, le groupe de presse CIPSE évoque, lui, une attitude plus ambivalente du public mexicain. Ces journalistes ont analysé, hier, à l'annonce du verdict, les milliers de commentaires postés par les internautes au bas des articles de presse américaines et mexicaines. Alors bien sûr, une immense majorité se disait satisfait que la culpabilité d'El Chapo soit reconnue, mais on en trouvait encore près d'un commentaire sur 5 dans certains journaux mexicains pour dire leur tristesse face au sort réservé à Guzmán. C'est la preuve pour CIPSE que la narcoculture forgée à coups de chansons, de films et de séries télé ces dernières décennies véhicule toujours des valeurs qui attirent le grand public. Une certaine forme d'ostentation, de luxe, de succès avec les femmes, de rébellion face aux autorités. Tout ce qu'El Chapo incarnait n'en déplaise à ses victimes et à la justice. Pour s'en convaincre, il suffit de lire ce matin encore les nombreux articles que les journaux de Mexico consacrent à l'épouse du parrain, la jeune et glamour Emma Coronel. En larmes au moment du verdict, hier, elle a déclaré ceci: je ne devrais pas pleurer, il n'y a pas mort d'homme. Les familles des centaines de victimes de son mari apprécieront.
Au Canada, le Premier ministre Justin Trudeau est fragilisé par la démission de sa ministre de la Justice.
Oui, c'est dans les colonnes du Globe and Mail que l'affaire a éclaté et elle a donc coûté sa place dans le gouvernement fédéral à Jody Wilson-Raybould. Il y a une semaine, le grand quotidien de Toronto révélait que le cabinet du Premier ministre Justin Trudeau avait fait pression sur sa ministre de la Justice pour qu'elle intercède auprès des procureurs et évite un procès pénal au très gros groupe de BTP québécois SNC-Lavalin. La société d'ingénierie qui affiche plus de 50 000 salariés à travers le monde est visée par une enquête de la police fédérale canadienne. Elle est accusée d'avoir copieusement arrosé pendant des années des responsables libyens proches de feu le général Kadhafi. On évoque en tout 32 millions d'euros de pots de vin, détaille le Globe and Mail. Dans cette affaire, le cabinet Trudeau aurait donc forcé la ministre Wilson-Raybould pour favoriser un traitement à l'amiable, un règlement à l'amiable et éviter un coûteux procès à SNC-Lavalin. Après les révélations dans la presse, la garde des Sceaux a d'abord été rétrogradée ministre des Anciens Combattants, puis elle a annoncé hier sa démission. Et c'est bien Justin Trudeau qui se retrouve au cœur des accusations, dont il nie forcément le bien fondé et forcément aussi l'opposition canadienne ne le croit pas, lit-on dans l'édito du Devoir. Le quotidien de Montréal. Assez d'hypocrisie, titre l'éditorialiste Jean-Robert Sansfaçon. Et c'est sa façon de pointer les arrière-pensées politiciennes dans cette affaire instruite depuis 2015, mais qui ressort aujourd'hui et vient écorner la popularité de Trudeau alors que se profilent les élections fédérales canadiennes d'octobre prochain. Le Devoir rappelle que protéger l'entreprise SNC-Lavalin, c'était aussi sauver des milliers d'emplois et que d'ailleurs la société, depuis 2015, a entrepris un grand ménage dans ses pratiques et chez ses dirigeants. Remettre cette affaire à la une, selon Jean-Robert Sansfaçon, c'est aussi pour les médias canadiens jouer du cliché selon lequel l'économie et la politique québécoise seraient gangrénées par la corruption. À quand, se demande enfin l'éditorialiste de Montréal, à quand des enquêtes aussi scrupuleuses sur la corruption pratiquée en Amérique du Sud et en Afrique par les dizaines de sociétés minières qui profitent du laxisme des lois canadiennes.
Et puis on termine avec d'autres pratiques reprochées au Canada, une affaire de décharge sauvage d'ordures aux Philippines.
Oui, c'est-à-dire dans le South China China Morning Post. En tout, 77 conteneurs bourrés d'ordures en décomposition qui ont été acheminés en toute illégalité par des navires canadiens depuis Vancouver il y a maintenant 5 ans. 5 années à pourrir au fond des ports philippins de Manille et de Subic. Le South China Morning Post évoque la puanteur de ces déchets canadiens que des organisations écologistes exhument de l'oubli général pour forcer, ou tenter de forcer en tout cas, le gouvernement Trudeau à venir les récupérer. Ce que les Canadiens ont fait aux Philippines est illégal et immoral, disent ces activistes. Mais au détour de cette affaire, on découvre que la pratique n'est pas isolée. Jusqu'à récemment, la Malaisie et la Chine en particulier étaient victimes de ces déchargements sauvages de tonnes d'ordures débarquées de pays développés comme la Corée du Sud ou donc le Canada. Mais les Philippines ne veulent plus être la poubelle de leurs riches voisins. Est-ce une coïncidence? En une du Philippine Star ce matin, on trouve un article qui nous explique que le président philippin Rodrigo Duterte a enfin décidé de se lancer dans un programme pour nettoyer la baie de Manille. L'objectif, c'est que les eaux en soient un jour assez propres pour que l'on puisse s'y baigner. Apparemment, c'est loin d'être gagné.
Merci beaucoup Camille Magnard. Il est 7h42 sur France Culture.